bonjour Aurélie, est-ce que vous êtes bien isolée énergétiquement, vous ?
Ah, énergétiquement, je ne sais pas. Au niveau du son, j'entends siffler le train des fois.
Bon, eh bien, écoutez, le train, en tout cas, allez rejoindre votre bureau. Allez-y à pied d'abord, hein, ça permettra d'économiser de l'énergie. Nous, on va s'intéresser à cette rénovation énergétique qui peut être en cours pendant le printemps. Chauffer moins pour gagner plus, comment faire feu de tout bois pour économiser l'énergie. Le changement énergétique, c'est maintenant avec le hors-série de 60 millions de consommateurs qui sort. Avec vos questions aussi, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur le site internet de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Nous sommes Service Public FI. C'est par une lettre que Jean-Louis Borloo a annoncé hier sa décision de se retirer de la vie politique pour des raisons de santé. Présenté comme tel, voici un acte qui n'a rien de politique, voilà tout au plus une situation médicale dotée de conséquences politiques. Mais il y a un mot essentiel dans la missive de Jean-Louis Borloo, le mot « énergie », car Borloo explique qu'il n'a pas, je le cite, « toute l'énergie nécessaire pour remplir concrètement ses responsabilités ». Et effectivement, nos hommes politiques, depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à Manuel Valls, sont devenus avant tout des corps remplis d'énergie. Tout signe de mollesse, signe symbolique ou signe réel, est interprété comme la preuve de l'incompatibilité avec le job que l'on songe à Jean-Marc Ayrault ou François Hollande. L'énergie est devenue la première caractéristique du politique. Voilà une nouveauté radicale. On se souvient qu'à la question des qualités requises pour un dirigeant, François Mitterrand lâchait « J'aimerais vous répondre le courage, mais je sais maintenant que c'est l'indifférence ». L'indifférence, c'est la qualité du roc, du minéral. Désormais, 20 ans après, il faut pour gouverner de l'énergie qualité animale. Le signe que le métier a changé, Churchill ou Ben Gurion ont été de grands politiques, dirigeant leur pays en temps de guerre depuis leur lit, bien souvent terrassés par la maladie ou la mélancolie. Voilà pourquoi aujourd'hui, à court d'énergie, Borloo renonce. Voilà pourquoi aussi nos hommes politiques vont faire à l'avenir assaut d'énergie. Sarkozy fonctionnait aux 220 volts. Valls va se mettre aux 380 en attendant qu'un élu se mette au triphasé, une surenchère énergétique au risque du court-circuit. Et en conclusion de l'émission dans le Grand Bazar, vous retrouverez le rendez-vous de Laurence Garcia, la première fois de ma vie où j'ai voté, un partenariat avec le magazine Cosette. Aujourd'hui, vous réentendrez la voix de Régine Desforges, cette grande dame qui s'est éteinte la semaine dernière.
Donc je vote par nécessité, je vote parce qu'il faut le faire, parce que c'est un devoir, parce que c'est un droit, parce que c'est tout ce que vous voulez. Mais ça ne m'amuse pas du tout. Moi, je vote en fonction de... comment dirais-je, du bord auquel appartient tel ou tel candidat, c'est-à-dire la gauche.
Puis Marie Montuire évoquera « Sans les interrupteurs, sans être interrompu, les interrupteurs, une bonne manière d'économiser l'énergie. »
C'est cette lampe que tu es venu chercher.
Ah, les montres ! La lampe ! La lampe merveilleuse !
Dépêche-toi, reviens vite. Tu n'as plus rien à craindre, la lampe te protège.
Mais avant les interrupteurs, voici la rénovation énergétique.
Bonjour Fred.
Bonjour Omar.
Le savais-tu Fred ?
Non.
Pour ne plus chauffer mon logement,
oui.
Je suis parti habiter en Martinique.
Ah,
et du coup, c'est la chaleur, pas le chauffage, et voilà, économie d'énergie.
Pas bête.
Pas folle la guêpe.
Alors, pour économiser sur le chauffage de notre logement... Tous en Martinique.
Service public. Guillaume Erner.
Il n'y a pas que les hommes politiques qui ont besoin d'énergie. La rénovation énergiquement efficace, c'est notre sujet de ce matin. En compagnie de Florence Clément, bonjour.
Bonjour.
Florence Clément, vous êtes chargée de l'information du grand public et de la sensibilisation des jeunes à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. À côté de vous se trouve Gaëtan Brispierre, bonjour.
Bonjour.
Gaëtan Brispierre, vous êtes sociologue, vous êtes spécialisé dans les questions énergétiques. Et puis Marc Tombez, bonjour.
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 Vous êtes secrétaire général de l'entreprise GeoPLC, une société de services en efficacité énergétique. Vous nous expliquerez quelles sont les solutions les plus efficaces à vos yeux pour économiser l'énergie. Et puis, je le disais en introduction, Thomas Laurenceau de 60 millions de consommateurs est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
60 millions de consommateurs sort un hors-série rénové pour économiser et vivre mieux. Quelles sont les nouveautés en matière de rénovation énergétique, Thomas Laurenceau?
La nouveauté, c'est que c'est vraiment, je pense, le moment pour y aller. Hein, il y a une fenêtre de tir là, que ce soit pour des raisons économiques, on va gagner de l'argent, que ce soit pour des raisons de confort, parce que maintenant on commence à bien comprendre que c'est aussi du confort de vie qu'on gagne, que ce soit aussi pour la valorisation de son patrimoine si jamais on est propriétaire. Donc tout est réuni et il y a des aides qui sont là pour ça. Malheureusement, on les connaît mal. Donc c'est vraiment le moment d'y aller, c'est bon. Pour soi, c'est bon pour l'économie française, c'est bon pour la planète. Alors pourquoi on attendrait?
On va faire le point justement sur les aides qui sont proposées avec deux volets. Un volet évidemment pour ceux qui habitent en maison individuelle, un peu plus de la moitié des Français, mais aussi pour ceux qui habitent dans des logements collectifs avec donc un certain nombre d'actions à mener par l'intermédiaire des copropriétés. Mais tout d'abord, Florence Clément, vous qui travaillez à l'ADEME, quelles sont les aides qui sont proposées justement aux Français? Il y a un certain nombre de mécanismes qui nous sont proposés, on les connaît mal, il y a un maquis. Comment s'y retrouver, Florence?
Il y a des aides principales qui sont offertes à tous. Le crédit d'impôt développement durable, ça, tout contribuable y a droit. Il y a des conditions de ressources pour bénéficier de taux encore meilleurs, c'est-à-dire que 15% ou 25% maintenant, il y a deux taux. 15%, ça va être accessible pour de nombreux travaux si on a des ressources plutôt moyennes. Et si on fait des bouquets de travaux, c'est-à-dire on réalise plusieurs actions en même temps dans son logement, on va avoir jusqu'à 25% donc des travaux qui vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors, il y a également une autre aide qui est sur le marché depuis un certain temps, c'est l'éco-prêt à taux zéro, qui est intéressante aussi comme aide, puisque ça vous permet, si vous n'avez pas suffisamment de trésorerie, puisqu'on sait que parfois ça freine la décision de travaux, bien d'aller à la banque et de demander à bénéficier d'un prêt sans avoir à rembourser d'intérêt. Donc ça peut quand même être une sacrée aide pour des personnes qui ont besoin de faire des travaux, mais qui n'ont pas la trésorerie suffisante. Ensuite, il y a d'autres aides, comme la prime rénovation énergétique qui est apparue à l'automne dernier, là qui va soutenir des foyers plutôt modestes, mais en tout cas qui peut faire un coup de pouce. C'est 1 350 euros pour des travaux d'économie d'énergie. Alors, il y a encore d'autres aides. Il y a des aides locales, il y a des aides régionales. Vous avez également des aides qui peuvent vous être proposées par des fournisseurs d'énergie. Lorsque vous réalisez des travaux, on peut vous proposer des prêts bonifiés, des primes. On peut même vous proposer de réaliser un diagnostic énergétique dans votre habitat. Il y a en fait toute une série de dispositifs, mais ils sont souvent assez locaux, assez régionaux et ils dépendent un petit peu des professionnels sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se faire accompagner, de ne pas rester tout seul à chercher tout ce dispositif. Alors l'État a mis en place...
Pour ne pas rester isolé face à l'isolation, comment fait-on, Florence? Alors, auprès de qui se renseigner?
Alors il y a un service public de la rénovation énergétique qui a été ouvert à l'automne justement pour accompagner les particuliers, pour ne pas les laisser seuls face à leurs décisions. Il y a un numéro de téléphone, le 0810 140 240, en appelant ce numéro...
0810. 140 240, on le rappelle à nos auditeurs.
Vous donnez quelques précisions et on vous met en relation avec un conseiller qui là va vous accompagner dans votre projet, qui va vous détailler toutes les aides dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation et de vos ressources. Donc c'est un accompagnement personnalisé qui va vraiment vous donner envie de vous lancer.
Florence, je vais vous poser une question difficile. Quelle somme environ faut-il prévoir pour se lancer dans les travaux de rénovation énergétique? Alors évidemment, entre le changement des fenêtres et le changement d'une chaudière, ce ne sont pas les mêmes sommes à prévoir, mais enfin, quelle fourchette de budget faut-il prévoir pour se lancer dans de tels travaux?
C'est vrai que c'est difficile de répondre. Si vous avez par exemple l'isolation de votre toit qui peut déjà vous permettre de faire beaucoup d'économies d'énergie, certaines isolations peuvent être autour de 5000 euros. Hein. Vous aurez déjà des résultats sur votre facture de chauffage puisque votre logement perdra moins d'énergie. Après, vous avez aussi des changements de chaudière qui sont plutôt à partir de 3000 euros. Voilà, donc ce n'est pas non plus toujours des travaux très lourds. On considère de toute façon que les particuliers sont capables de prendre en charge, de prendre une décision pour réaliser des travaux quand ça se situe autour de 10 000, 12 000, 13 000 euros. Après, ça devient des travaux qui sont un petit peu plus lourds.
Même 10 000 ou 12 000 euros, ça commence déjà à devenir...
Oui, mais ça vous permet de faire une vraie rénovation globale. Là, vous arrivez à faire plusieurs travaux dans l'habitat et vous pouvez vraiment voir la différence sur vos factures.
Thomas Laurenceau pour 60 millions de consommateurs.
Oui, bah, je suis assez d'accord. Il y a plusieurs, on peut graduer les travaux, c'est-à-dire soit on les fait petit à petit, et donc pour, avec quelques milliers d'euros, on peut arriver. Alors le problème, c'est de prendre dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément changer les fenêtres si effectivement il faut commencer par isoler la toiture. Et ça, il faut faire attention à ne pas forcément répondre aux sollicitations des marchands qui vont vous appeler au téléphone et vous dire qu'il faut aller absolument changer la fenêtre. Donc, on peut faire ça pas à pas. On peut aussi avoir une approche globale. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux pas faire ça tout seul. Il vaut mieux faire un bon diagnostic, un bon audit énergétique d'abord. Et là, avec, ça peut monter jusqu'à 30 000 euros. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de l'argent qui est investi et qui va être économisé avec le temps et qui va valoriser le patrimoine.
C'est donc un investissement qui a une rentabilité. Marc Tombez, vous êtes secrétaire général de l'entreprise Géo PLC. Il faut d'abord commencer par faire un bilan énergétique. Il faut voir la question de l'isolation qui, bien souvent, est ce qui pêche dans les maisons.
Oui, bien sûr, chauffer une passoire, c'est pas très efficace. Donc, Géo Partage la Croissance s'est spécialisé sur... Un dispositif dont on n'a pas parlé, qui est le certificat d'économie d'énergie. Grâce à ce dispositif, lancé par le gouvernement en 2006, on peut, par rapport aux sommes qui ont été annoncées de rénovation énergétique, de travaux de rénovation énergétique, économiser jusqu'à 30 ou 40% de l'investissement. Et ce dispositif est mal connu, c'est pour ça que Géo Partage la Croissance travaille depuis 4 ans avec presque 70% de la distribution de matériaux et de surface de bricolage en France pour évangéliser, démocratiser la connaissance de ce dispositif et des autres, tous ceux dont on a parlé bien entendu, auprès des professionnels qui distribuent et qui se responsabilisent de plus en plus au sein de leur métier pour distribuer des matériaux performants et auprès des artisans, des 350 000 artisans en France, qui sont de plus en plus motivés, conscients et responsables devant cet enjeu extraordinaire. Donc les meilleurs conseillers de plus en plus aujourd'hui vis-à-vis des particuliers, c'est ces surfaces de bricolage, ces surfaces ces distributions de matériaux et également les artisans qui sont de plus en plus formés, motivés à les conseiller.
Florence Clément pour l'ADEME, autrement dit l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Oui, alors c'est vrai que la formation des professionnels en ce moment s'améliore beaucoup hein, et que ce monde-là évolue, mais je tiens quand même à rappeler qu'il faut que le particulier soit plutôt entouré de conseillers qui ont un regard assez neutre. En fait, plus on est débarrassé d'une démarche commerciale, plus on va se rendre compte que la discussion et les travaux qui vont être proposés vont réellement prendre en compte la situation de la maison, les capacités de financement des personnes. On pense parfois, vous voyez, que c'est important de changer ses fenêtres. Parce que voilà, on passe à côté et on a l'impression que le froid arrive. Bon, les fenêtres ne sont pas toujours le premier élément à changer. Parfois, en fait, la difficulté vient beaucoup plus de ce qu'on ne voit pas, enfin de ce qu'on ne ressent pas comme froid, c'est-à-dire ce qui est sous le toit. Et lorsqu'on va faire la démarche tout seul, par exemple, d'aller voir un professionnel pour changer ses fenêtres, en fait, on n'aura pas forcément rentabilisé son investissement. On va investir sur quelque chose qui n'est pas super rentable. Donc, j'engagerais plutôt les particuliers à se faire conseiller par des conseillers
voilà, professionnels
qui sont neutres et qui sont vraiment dans une optique de les renseigner sur ce qui sera le plus efficace pour eux à long terme.
Voir des professionnels de la profession. L'ADEME conseille les auditeurs et tous ceux qui voudraient trouver ces professionnels de la profession, parce qu'il y a aussi beaucoup de margoulins, il y a beaucoup d'arnaques, Thomas Laurenceau, qui ont utilisé la rénovation énergétique pour malheureusement faire gaspiller de l'argent aux individus.
Ah oui, tout à fait. Alors le problème, c'est qu'il y a la bouteille à moitié pleine et la bouteille à moitié vide. Il y a effectivement, ça s'améliore, mais nous, on reçoit un courrier phénoménal de gens. Et la dernière enquête de la direction des fraudes, d'ailleurs, montre dans le secteur des économies d'énergie, de la rénovation, qu'il y a en gros 33% d'infractions ou bien de non-conformité. Les principaux problèmes, c'est qu'on surévalue l'économie qui va être réalisée. Et ça, c'est vraiment... Du coup, les gens y vont alors qu'en fait, ils vont moins économiser qu'ils ne pensent. Et puis ensuite, il y a des pratiques qui consistent à faire prendre des crédits très élevés aux gens en leur disant « vous inquiétez pas, vous le récupérez à terme ». Mais on fait investir 25-30 000 euros à des gens qui, finalement, pour des équipements qui en valent le quart. Quoi.
Alors, il y a beaucoup d'arnaques de ce type, mais il y a une volonté générale de faire des économies d'énergie. Gaëtan Brice-Pierre, vous avez aussi bien étudié les décisions d'économie d'énergie faites par des foyers habitants dans des maisons individuelles, mais aussi la question des copropriétés. Puisque puisque là, les choses ne se posent pas du tout de la même façon. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, ben en effet, dans la maison individuelle, on a un ménage en fait qui est seul décideur, hein, même si on l'a vu, il peut avoir des prescripteurs. Dans la copropriété, c'est assez différent puisqu'on est face à une assemblée générale de copropriétaires hein, qui est accompagnée par un syndic. Voilà. Sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les syndics ne sont pas moteurs sur ces questions d'économie d'énergie, à la fois parce que ce n'est pas leur métier, parce que ça correspond à une prise de risque aussi pour eux. Et que du coup, bah, c'est aux copropriétaires de se saisir de ces questions et d'avancer là-dessus indépendamment du syndic.
Et les copropriétaires, justement, est-ce que généralement on trouve dans une assemblée de copropriétés, on sait que c'est toujours très compliqué de prendre des décisions dans ce contexte-là, est-ce qu'il y en a toujours qui freinent? On se dit aussi que ce sont des investissements lourds, donc il y a forcément des gens qui aimeraient différer ce type de décision, Gaëtan Brice-Pierre.
Oui, alors on a affaire à quelque chose qui est là de l'ordre de la dynamique de groupe. Hein. Et donc ce qu'on voit souvent, c'est que c'est un copropriétaire qui, parce qu'il va avoir des convictions sur le sujet, va se saisir de ce projet et va compenser d'une certaine manière les défaillances du gestionnaire en allant chercher des professionnels et surtout en mobilisant les autres copropriétaires, en leur expliquant l'intérêt qu'ils pourraient avoir à voter des décisions d'économie d'énergie. Et donc c'est vraiment la présence d'un leader énergétique au sein des copropriétaires qui est le moteur aujourd'hui de ces projets d'économie d'énergie.
On écoute Irina Björklund, La vie est une fête, c'est chaud s'il y a de l'énergie.
Sur un lit déformé, se mirent leurs hanches à onduler dans un ruisseau irrégulier à la jeunesse et sa beauté. Voici ensuite l'enfant aîné, mesure de la prospérité. La vie est une fête. Une cicatrice sur le genou laisse un seul arrière-goût d'une somptueuse enfance. Bonjour l'adolescence. Est-ce possible de porter seule cette âme tourmentée? La vie est une fête. Enfin le baccalauréat, on court les rues trempées de joie, on crie allô la liberté, ensuite le film nous est coupé. Tu poses un premier carton dans ton nouvel appartement, la vie est une fête. Mon Dieu comme tu es belle, prise par cette passion nouvelle, tu rayonnes bizarrement depuis votre dévouement. Deux planètes égarées, tellement loin mais retrouvées. La vie est une fête. La vie est une fête. Fini l'université, gâteau de mariage, coupé le riz toujours sur l'escalier des mois de l'art. La pointe peut même rouler dans une montée. La vie est une fête. Sur un lit déformé, se mirent le range à onduler dans un ruisseau irrégulier. Le bonheur peut faire pleurer. Le pasteur a baptisé encore une fois l'enfant est né. La vie est une fête. La vie est une fête. L'âge moyen, son arrivée, l'ascension trop escarpée. Voilà, on peut nous effacer. Les novices bien doués, un contrat terminé. La vie est une fête. D'un regard reculé, tes petits enfants portent les traits résolus et familiers de ton enfance à éloigner. On ouvre les cadeaux de Noël entre adultes pluriels. C'est une fête. La vieillesse roule enfin comme une pièce sur le chemin. Et on nous dit bien que la mort est un marchand qui n'a pas tort. Et quand le grand
Service public sur France Inter, la rénovation énergétiquement efficace en compagnie de Thomas Laurenceau de 60 millions de consommateurs qui sort son hors-série rénové pour économiser et vivre mieux. Florence Clément de l'ADEME, Marc Tombez, secrétaire général de l'entreprise GOPLC, société de services en efficacité énergétique, et Gaëtan Brispierre, sociologue spécialisé dans les questions d'énergie. Beaucoup de questions de locataires, notamment Marie-Laure qui nous dit: un locataire peut-il forcer son propriétaire à faire des travaux de rénovation énergétique? Sur Twitter, on nous dit: c'est très beau ce que vous racontez, mais moi, je suis locataire. Comment faire pour faire diminuer la facture électrique ou la facture de consommation d'énergie? Florence Clément pour l'ADEME, une réponse à ce type de question.
Alors, les locataires ont le droit au crédit d'impôt développement durable. Alors après, bien sûr, c'est un jeu de négociation qu'il faut entreprendre avec le propriétaire, avec leur bailleur, puisqu'ils ne vont pas faire des travaux sans compensation, on imagine bien. Donc il faut essayer de regarder si, en améliorant le logement, ils peuvent proposer à leur propriétaire, pourquoi pas, un ou deux loyers offerts. Mais ils réalisent des travaux et ils pourront récupérer une partie sur leur imposition fiscale. Donc.
Un ou deux loyers offerts, bien souvent, ça ne correspond pas du tout à la dépense entreprise pour rénover énergétiquement.
Ça peut.
Thomas Laurenceau.
C'est un vrai problème, cette histoire des locataires, puisque jusqu'à présent, les incitations ont porté sur les petits propriétaires de maisons individuelles. Et c'est eux qui ont bénéficié des aides, essentiellement. Et même, d'ailleurs, certains auraient fait les travaux même sans les aides. Et donc, il y a bien deux secteurs qui sont exclus, c'était la copropriété et les locataires du parc privé, parce que dans le public, c'est un peu différent. Là, c'est vrai que, pour le moment, on manque d'outils. On manque d'outils, sauf si on n'arrive pas aux 19 degrés réglementaires dans l'appartement en hiver.
Alors si c'est le cas,
on peut imposer soit une augmentation du chauffage, soit des travaux, puisque
comment s'y prendre pour l'imposer, Thomas Laurenceau?
Il faut faire une mise en demeure au propriétaire pour qu'il engage des travaux. Mais sinon, effectivement, c'est difficile. Alors, on peut négocier. Moi, je suis assez d'accord. Parce que le crédit d'impôt, c'est bien, mais d'investir pour son propriétaire, il faut quand même être relativement altruiste. Donc, il faut arriver à négocier pour obtenir, dans une logique de donnant-donnant, mais c'est difficile.
Et puis, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a une aide qui existe, qui a été mise en place justement par l'État pour engager un peu cette négociation. Ça s'appelle la contribution du locataire aux travaux d'économie d'énergie. Donc si le locataire, en fait, s'y retrouve sur les charges, si les charges diminuent suffisamment, eh bien le propriétaire peut lui demander une petite contribution pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Au final, tout le monde est un peu gagnant. Le locataire paye un peu, le propriétaire donc est aidé, donc il a envie de faire quelque chose. Et puis le locataire, lui, voit ses charges diminuer. Bon, ça ne fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, c'est disponible.
Ça existe. On voit qu'il y a vraiment un maquis d'aide. Il faut se rapprocher de l'ADEME pour être certain que l'on a fait le tour de la totalité des aides envisagées. Giovanni, qui est architecte, nous dit: pourquoi ne pas parler des architectes qui, eux, sont indépendants? Marc Tombez, est-ce que l'on peut avoir recours à un architecte pour améliorer énergétiquement son logis, sa maison individuelle?
Oui, de plus en plus. Géopartage à la croissance travaille avec 35 bureaux d'études et des architectes qui sont de plus en plus sensibilisés et formés à ces gros travaux de rénovation. Et il est vrai que cette profession s'implique de plus en plus, comme les professionnels du bâtiment, pour faire des propositions qui sont très, très efficaces. Je voudrais revenir une seconde sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur les risques et pourquoi pas d'escroquerie dans ce domaine. Je crois que les pouvoirs publics ont mis récemment en place également des paravents tels que l'éco-conditionnalité et qui obligera tous les artisans et les professionnels d'ici 2015 à être reconnus garants de l'environnement, c'est-à-dire à avoir subi et bénéficié d'une formation très approfondie sur tous les travaux d'économie d'énergie de façon très sérieuse. Et nous nous sommes engagés là-dedans, dans cette formation. Et je crois que c'est très important de le rappeler parce que nous avons, avec un grand réseau de distribution qui s'appelle Tout Faire Matériaux, réalisé un roadshow dans toute la France de 170
étapes. Un roadshow, autrement dit, vous êtes allé dans plusieurs endroits.
Dans toute la France, oui, 170 étapes où on a rencontré plus de 3500 artisans et on leur a expliqué pendant 2h30 ce qu'étaient ces enjeux de formation, et on a eu une écoute très attentive et très motivée.
Gaëtan Brice-Pierre, vous souhaitiez réagir à la question donc, des rénovations faites par des bureaux d'études, des architectes. Oui, est-ce que c'est une bonne manière de procéder?
C'est-à-dire qu'en effet, pour le cas des copropriétés, elles ont absolument besoin de faire appel à un conseil, en fait. Hein, et elles se tournent de manière privilégiée vers des bureaux d'études, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation d'audit énergétique. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'une fois l'audit fait, il y a une difficulté à passer à l'acte. Et pour ça, les architectes, aujourd'hui, ont des compétences parce qu'ils ont une approche plus globale, pédagogique, y compris pour expliquer aux copropriétaires l'intérêt qu'ils ont à se lancer dans cette démarche.
Je l'ai dit en introduction, la rénovation énergétique au sein d'une copropriété pose des problèmes spécifiques. Notre reporter Lénora Krief s'est rendue à Palaiseau, en région parisienne, dans le département de l'Essonne, où se trouve la résidence d'Ardenais, étendue sur 10 hectares et composée de 7 bâtiments. C'est une résidence qui comprend 360 appartements pour plus de 600 propriétaires. Depuis l'automne dernier, le conseil syndical de la résidence tente de convaincre les copropriétaires de réaliser un audit énergétique, justement, quitte à les réunir un samedi pour un atelier isolation.
On a donc sur toute la partie chauffage, il y a deux chaudières qui sont à gaz, qui sont assez puissantes. La consommation électrique par rapport aux chaudières est assez importante également. Donc, je vous ai mis deux plans au centre, vous pouvez tourner.
Donc là, on parle de l'aspect énergétique. Et donc pour cette étude énergétique, elle va s'interdire, par exemple, de se pencher sur certains aspects. Par exemple, si une personne ne veut qu'on touche aux fenêtres, vous n'allez pas réfléchir aux fenêtres. C'est ça ?
Si vous voulez, ça va nous permettre d'affiner la démarche qu'on engage.
Je suis vice-président du conseil syndical, donc avec Astin Gérald. Je suis depuis l'origine de la résidence.
Ça semble être une entreprise assez délicate de convaincre tous les copropriétaires sur un tel projet.
Oui, surtout que depuis plusieurs années, notre dernier avalement a été voté en 85, et donc depuis cette date, nous n'avons pas eu d'autres ravalements. Au sein de la copropriété Conseil syndical, on a plusieurs fois fait des propositions de ravalement et on s'est heurté à des personnes qui, sous l'intérêt du bien privatif, se sont opposées et qui nous a bloqué complètement l'opération, même si c'était pour un seul sujet dans le ravalement.
Comment se fait-il que vous soyez si investi dans ce projet de rénovation énergétique ?
En tant que conseil syndical ? Cette rénovation énergétique, dans le sens où on veut faire un ravalement. On a vu qu'aujourd'hui, il était utile et je dirais obligatoire de passer par cet aspect-là. Et faire un ravalement sans faire cette opération d'audit énergétique, c'était une aberration. C'est-à-dire, le ravalement, ça sera acquis, normalement il n'y a pas de problème. Ce sont les options qui vont découler, c'est-à-dire option, fait-on une isolation des façades, des deux façades, puisqu'on a quand même aussi beaucoup de fenêtres. Donc on va proposer justement qu'avant le ravalement, les gens puissent avoir la possibilité de mettre des fenêtres à double vitrage pour ceux qui n'en ont pas encore.
On va ressentir en fait votre perception.
Vous êtes jeune propriétaire dans la résidence ?
Ouais, depuis juillet dernier.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de rénovation énergétique ?
Pour nous, ça fait partie des raisons un petit peu pour lesquelles on a acheté, parce que la résidence, elle a l'air vraiment ancienne. Déjà, quand on arrive, on voit vraiment le côté un tout petit peu délabré. On s'est dit, s'il y a une belle rénovation avec un côté énergétique, alors on achète. Parce que les gens qui nous vendaient nous l'avaient dit, du coup, ils nous vendaient relativement pas cher. Et on s'est dit, le prix permettra probablement de couvrir une rénovation, et donc ça nous intéressait.
Vous êtes une ancienne résidente ?
Oui, ça fait 38 ans que je suis dans la résidence. Donc on a été obligé de consolider d'abord nos bâtiments et puis maintenant il faut passer à l'étape de ce ravalement que tout le monde attend pour redonner du cachet à notre résidence et on est conscient qu'en même temps il faut revoir un petit peu la consommation pour le chauffage parce qu'il y a beaucoup de déperditions partout.
A priori je suis assez critique parce que je pense qu'il y a une bonne partie des études énergétiques qui sont faites actuellement qui sont complètement bidons et qui sont faites pour que certaines sociétés se fassent de l'argent. Ceci dit, je veux bien donner toutes ces chances à la société et voir ce que ça donne.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Le reportage de Lénora Krief, on l'entend, Gaëtan Brice-Pierre, vous qui êtes spécialiste de ces questions d'énergie et qui êtes sociologue, ça n'est pas facile de mettre une copropriété d'accord, on s'en doutait, on vient de l'entendre.
Oui, et là on vient de voir un bel exemple finalement d'atelier d'échange entre les copropriétaires et les professionnels, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va manquer en copropriété, c'est-à-dire des espaces de communication, d'interaction entre les professionnels et les copropriétaires. Si on veut, la rénovation énergétique pour les copropriétaires, c'est une véritable révolution copernicienne parce qu'ils ont l'habitude d'investir sur leur appartement pour valoriser leurs propres biens. Et là, on va leur demander d'investir sur des parties communes.
Mais ça valorise également leurs propres biens.
Voilà, mais ce n'était peut-être pas ce qui se faisait habituellement, où on était plutôt sur une réaction à une obligation, un décret, ou sur un rafraîchissement avec la peinture des couloirs et des escaliers, par exemple.
Vous en avez suivi beaucoup des copropriétés, Gaëtan Brice-Pierre. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un copropriétaire qui souhaiterait entraîner avec lui toute la copropriété dans une démarche de rénovation énergétique ?
Oui, alors je lui conseillerais tout d'abord d'aller regarder les factures d'énergie. Ça, c'est vraiment le point de départ, de faire un bilan énergétique. Hein, et à partir de là, d'essayer de discuter et d'agréger autour de lui un petit groupe de copropriétaires alliés qui va se sentir concerné par cette question. Et c'est vraiment en instaurant comme ça une dynamique collective qu'on va arriver au fur et à mesure à faire changer peut-être de point de vue les plus récalcitrants.
Thomas Laurenceau pour 60 millions de consommateurs.
Oui, je suis assez d'accord. Ce qui remonte de des témoignages qui reviennent à nous, c'est qu'il est intéressant de profiter des travaux engagés. Hein. Monter un échafaudage, ça coûte très cher. Si on dit, bon, bah, ça y est, de toute manière, on va dépenser de l'argent pour mettre un échafaudage, si on en profitait pour faire de l'isolation de la façade, ça c'est intéressant et ça permet de bien convaincre les gens. Il faut savoir que les copropriétés bénéficient d'aides financières comme les propriétaires. Donc, il faut aller voir ça. Elles peuvent aussi bénéficier d'aide méthodologique de la part des associations de copropriété. Donc, avec tout ça, je pense que tout est réuni pour pouvoir y aller là aussi.
Florence Clément.
C'est un véritable enjeu, la copropriété. On s'en est rendu compte ces dernières années. Il y a de plus en plus d'initiatives d'accompagnement qui sont faites, puisqu'on a vu qu'il faut rassurer les copropriétaires. Et il y a par exemple un bel exemple en Île-de-France, le Coach Copro, est une plateforme d'information et de soutien des copropriétaires. Alors, il y a eu plusieurs partenaires impliqués dedans, même la ville de Paris, voilà, s'y est mise. On soutient les copropriétaires, on les aide même au niveau du diagnostic, on leur donne une subvention et après, ça les engage. Une fois qu'ils savent ce qu'il faut faire et qu'ils sont accompagnés, eh bien, ils ont envie de partir.
On écoute Kellys Jack Reeves et tout de suite après, on continue à évoquer la rénovation énergétique.
Windows tell me
Service public sur France Inter, la rénovation énergiquement efficace avec une auditrice au standard, Annie, qui nous appelle d'Avignon.
Oui, bonjour.
Bonjour Annie, nous vous écoutons, vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter.
Il n'y a pas qu'auprès des copropriétaires qu'il convient de faire l'unanimité. Au sein des couples, c'est pas triste non plus. Hein.
Oui, il y a moins de membres, généralement.
Voilà, d'un budget qui monte très très vite. Hein. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous les artisans dont vous avez parlé, qui chacun prêche pour leur chapelle. Mais je vous appelais surtout pour autre chose. C'est que nous nous sommes heurtés à la rigidité de ce qui nous est imposé en termes de matériaux à choisir. Je parle par exemple en particulier de la chaudière. Il n'y a qu'un seul modèle de chaudière, la chaudière à basse condensation, qui déclenche des aides. Or, et bon, nous sommes dans l'incapacité par ailleurs à inclure la rénovation de la toiture parce que sa configuration fait qu'elle ne pourra jamais satisfaire aux normes exigées. Et pourtant, c'est un point important. Donc, moi, c'était un petit peu le problème de la rigidité des critères qui sont imposés pour qu'on puisse rentrer dans ce type de programme, sachant toujours que ben, c'est du vieux et que dans du vieux, on ne fait pas comme... voilà, on ne peut pas tout détruire et tout reconstruire.
Et oui, évidemment, vous avez du mal à satisfaire à ces normes de protection et de rénovation énergétique du fait même du caractère ancien de votre maison. Merci, Annie, pour cette question. Donc, la question de la rigidité des normes, Florence Clément pour l'ADEME. Est-ce qu'il y a vraiment une rigidité des normes requises pour obtenir ces aides et ces économies d'impôts ?
Mais disons qu'on vise vraiment la performance énergétique. Donc les aides vont aller vers des matériaux qui sont réellement efficaces. Bien sûr qu'il y a des cas particuliers. Hein, une maison unique, hein, comme on le disait en début d'émission. Enfin, on ne peut pas imposer tout à tout le monde de la même manière. Mais normalement, il devrait y avoir des possibilités, même dans un habitat ancien, pour trouver comment faire pour que son logement soit plus efficace. Une chaudière à condensation, aujourd'hui, de toute façon, c'est pratiquement devenu la norme sur le marché. On vous propose quasiment que ça. Donc, et les aides sont là pour normalement accompagner le surcoût.
Gaëtan Brispierre, le point de vue du sociologue.
Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics poussent à un niveau de performance assez élevé. Et donc, ça peut être une barrière pour certaines personnes. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les consommateurs aujourd'hui rentrent dans une démarche et une réflexion vis-à-vis de ces questions d'énergie. Alors peut-être qu'ils ne pourront pas faire parfaitement tout de suite, mais ce n'est pas grave. Il y aura peut-être un moment ou comme monsieur l'a dit, pourront profiter d'une fenêtre de tir, hein, parce qu'ils veulent installer par exemple une chambre dans les combles, ben là, ça sera le moment pour faire l'isolation. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est ça, avancer pas à pas, rentrer dans une démarche.
Marc Tombez, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'ils ont eu des arnaques, qu'on leur a proposé des devis exorbitants. J'imagine qu'il faut mettre en concurrence plusieurs artisans avant de se lancer dans ce type de dépenses.
Absolument. Et aujourd'hui, encore une fois, le nombre des artisans formés est de plus en plus nombreux. Nous sommes, nous, Géopartir et Croissance, sur le terrain pour également conseiller les artisans et leurs clients, car nous avons plus de 70 personnes qui travaillent tous les jours dans toutes les régions de France. Et avec nos partenaires, je le répète, les réseaux qui sont les grands magasins de construction, de matériaux de construction, qui sont là également pour donner des conseils et demander toujours, évidemment, un devis très détaillé à son artisan et insister sur les facteurs qui sont les plus importants pour aboutir à une véritable performance énergétique de votre logement, qui aura pour conséquence, bien évidemment, de faire baisser votre facture de consommation électrique ou de consommation
d'énergie. Tout court, Thomas Laurenceau, cette émission touche à son terme. 60 millions de consommateurs publient cette hors-série rénovée pour économiser et vivre mieux. Quels sont les derniers conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs, Thomas ?
C'est juste pour vous rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, c'est que désormais, pour avoir les aides, on va être obligé de faire appel à des professionnels qui ont un label, ce fameux label RGE, hein, reconnu garant de l'environnement. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose.
On peut vraiment y aller les yeux fermés.
Il ne faut jamais aller les yeux fermés.
C'est compliqué, Thomas.
Voilà. Et puis, il y a surtout beaucoup de faux labels qui continuent à donner confiance aux gens, hein, les fameux partenaires Bleu Ciel qui ne veulent rien dire, par exemple. Il faut faire attention à ça.
Effectivement, EDF Bleu Ciel, cela revient dans les mails d'arnaque.
Oui, parce que finalement, on achète le droit d'utiliser les fichiers de clients d'EDF et c'est à peu près tout. Donc, il faut faire attention à ça. Mais
donc c'est un label qui ne dit rien sur la qualité de l'artisan
je reviens sur cette idée. Il faut vraiment se faire conseiller. C'est important. C'est difficile de faire ça tout seul. C'est bien d'avoir un avis extérieur pour pouvoir prendre la démarche petit à petit.
Gaëtan Brice-Pierre, en conclusion, au niveau des copropriétés, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et c'est là probablement où les gains d'économie d'énergie sont les plus importants à réaliser dans le futur.
Oui, la copropriété, c'est un quart des Français qui y habitent. Hein, et c'est pas que les riches, hein, c'est vraiment très divers. Et puis c'est un parc également qui est paradoxalement moins performant que le parc HLM en moyenne, hein, parce que dans les HLM, on a un bailleur qui a rénové. Je crois qu'aujourd'hui, une des questions qu'il va falloir résoudre, c'est d'abord celle de l'accompagnement, en effet, mais c'est aussi celle des modèles économiques. Hein, comment on va financer finalement ces travaux? Parce que dans une copropriété, pour le coup, on atteint des montants de travaux très importants. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se développer à ce niveau.
Florence Clément pour l'ADEME, on a compris qu'il fallait se faire accompagner, que l'ADEME était capable d'accompagner tous les auditeurs qui voudraient se lancer dans ce type de travaux.
Et moi, ce que j'ajouterais, c'est se donner le temps de la réflexion. Parce qu'en fait, si on veut absolument que les travaux commencent le mois prochain ou le mois d'après, eh bien, on est sûr en fait de se louper. Alors, il faut absolument se prendre le temps de prendre conseil, de rencontrer des professionnels. Tout le monde ne va pas vous proposer les mêmes techniques. En gros, pour réaliser des travaux par exemple de réfection du chauffage ou des choses comme ça, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre, c'est-à-dire c'est pas en septembre prochain.
Et je rappelle également le hors-série de 60 millions de consommateurs rénovés pour économiser et vivre mieux. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous et d'avoir essayé de nous éclairer sur ces économies d'énergie. Voici maintenant le Grand Bazar.
Le Grand Bazar de Service Public. Service public, le Grand Bazar.
Bonjour Marie Montuire.
Bonjour à tous.
Pour faire des économies d'énergie, on peut commencer par penser à éteindre la lumière avec un interrupteur, l'objet sur lequel vous vous êtes penchée aujourd'hui Marie.
Quand on construit ou qu'on rénove, on se pose la question du choix de l'interrupteur quand tout est fini, que les peintures sont sèches et qu'on l'est aussi à sec, vu qu'on a déjà tout dépensé dans le parquet en chaîne ou la plomberie. Résultat, au mieux, il est passe-partout. Au pire, c'est une verrue sur le carrelage de la salle de bain qui nous a pourtant coûté un bras. Mais il n'est pas trop tard pour changer le ou les interrupteurs qui se font remarquer pour de mauvaises raisons par des interrupteurs beaux et pourquoi pas assortis au rideau.
Ouais, parce que ça existe, ça.
Il existe des interrupteurs en plexi transparent dans lesquels on peut inclure notre tissu ou du papier peint. Les matériaux sont bien plus variés que le laissent penser les rayons de vos magasins de bricolage. Plastique, mais aussi métal, porcelaine, cuir, corian, pierre, béton, bois, verre ou, pourquoi pas, spécialement pour vous, Guillaume, incrusté de cristal Swarovski.
Ah, vous savez mais ce voilà. Que j'aime, vous, Marie.
Ça commence à être difficile de choisir, mais bouton pressoir, rotatif, levier couteau, levier bascule, déclenchement par simple effleurement, tout se complique encore. Comment choisir? L'heure industrielle petite boutique parisienne a deux spécificités spécialisées dans l'interrupteur. Elle est dans le monde très mal du bâtiment tenu par des femmes de mère en fille depuis les années 70. Voici donc quelques conseil éclairé de Valentine, troisième génération. Vous avez été attentif aux matières, à la couleur, au style contemporain, rétro, voire très design. Ok, mais est-ce que votre interrupteur, Guillaume, s'accorde avec vos poignées de porte qui sont en général juste à côté?
Eh bien, maintenant que vous me posez la question, oui. Je n'en sais rien, Marie, à dire vrai, je
côté,
ne sais pas.
Côté tendance, l'interrupteur high-tech est séduisant, éclairé, éteint par effleurement ou simplement en passant la main devant l'interrupteur. C'est pratique quand on a les mains dans la cuisine ou humide. Mais c'est nettement plus cher. Et cela ne fonctionne pas, par exemple, sur un va-et-vient. Toutes les façades ne fonctionnent pas avec tous les mécanismes. Et vous avez quoi comme boîte d'encastrement derrière votre interrupteur moche? Et combien d'allumages cet interrupteur va-t-il commander? Ce sont les bonnes questions à poser à l'électricien ou à votre vendeur expert comme Valentine.
Bon, alors maintenant, je vais parler argent. Je sais que c'est un sujet qui vous fâche, Marie, mais c'est quand même une question assez importante, le prix de l'interrupteur.
Alors, c'est sûr, dès que l'on veut sortir de l'ordinaire ou du plastique, il faut compter dans les 50€ par interrupteur. Alors, plutôt que de prendre un crédit, changez-les petit à petit, pièce par pièce, ce sera moins douloureux. Dans les bons rapports qualité-prix, la marque espagnole Fantini joue sur le look rétro en s'inspirant des interrupteurs en porcelaine ou façon cloche métallique des années 20. Plaque de finition en métal ou porcelaine épurée et petit levier goutte d'eau, la marque française Modelec propose des modèles simples, élégants et abordables. Chez Meljac, la haute couture de l'interrupteur qui équipe moult palaces dans le monde et quelques stars américaines dont je ne peux citer le nom. Le premier prix est à 70 euros. Pour ce tarif-là, vous pourrez vous offrir un bel interrupteur en laiton de fabrication française qui, comme les modèles sur mesure qui font la réputation de la marque, aura nécessité une vingtaine d'opérations, dont 4 à la main. Un petit luxe dont vous vous servirez tous les jours, voire plusieurs fois par jour.
Sauf si vous économisez l'énergie et que vous décidez de vivre dans le noir. En tout cas, vous remarquerez que pendant cette chronique, je ne vous ai pas du tout interrompu, Marie. Oh, à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles et d'autres idées déco.
France Inter. Service public.
Et voici maintenant le rendez-vous de Laurence Garcia. Ma première fois dans l'isoloir avec aujourd'hui la voix d'une grande dame disparue la semaine dernière, Régine Desforges.
Oui, nous commençons notre campagne pour les élections aujourd'hui.
Des élections au village.
Voici qu'approche le jour.
Tous les citoyens ont le droit de voter.
Où vous allez décider du sort de la France.
Régine Desforges.
À voter.
À voter.
Régine Desforges, si je ne m'abuse, un papa qui travaillait à la SNCF, une maman au foyer dans un petit village du Poitou. Dans quelle valeur familiale, politique ou culturelle vous avez baigné, vous?
Vous savez, c'était la guerre. Hein. C'était donc une certaine idée de la libération de la France. Papa travaillait à ce moment-là à la SNCF, était comme la plupart des cheminots à mener certaines actions. Et il a été amené, entre autres, à déblayer au Radour-sur-Glane. Ce qui l'a traumatisé à vie, ce qui fait qu'il nous a emmenés au Radour-sur-Glane, ma petite sœur et moi, 3 mois après les faits. Donc je peux vous dire que les odeurs étaient toujours là. Il y avait une présence de la mort absolument inouïe que des petites filles comme ma petite sœur et moi ont marché en pleurant, agrippées à la main de ma mère, qui a engueulé mon père après de nous avoir emmenés là.
Et dans la tête de la gamine que vous êtes, hein, vous avez conscience de tout ça, de cette histoire-là, ou ça reste virtuel quand même?
C'était pas virtuel du tout, parce que j'étais une enfant très curieuse. Et donc je lisais tous les journaux qui traînaient, on écoutait la radio de Londres, et puis il y avait les Allemands qui étaient là en uniforme, on ne pouvait pas les ignorer. On vivait dans un climat où par exemple, la torture était quelque chose de tout à fait admis. Tout de suite après la libération, on ne jouait pas aux gendarmes, aux voleurs, mais on jouait au maquis, aux Allemands. Personne ne voulait faire les Allemands, mais enfin, on forçait, hein, et on torturait. Ça nous semblait normal.
La petite Régine, gamine avec un fort caractère, des problèmes avec tout ce qui est autorité?
J'ai eu des problèmes, oui, d'obéissance, comme on dit. J'acceptais pas que les choses soient comme elles étaient. Et c'est pour ça que j'étais toujours à la porte des cours d'instruction religieuse ou autre, parce que je posais des questions. Et les bonnes sœurs, parce que j'étais chez les bonnes sœurs, elles étaient pour la sainte ignorance, évidemment.
Alors vous êtes majeure en 56. Est-ce qu'il y a un souvenir de premier bulletin, de premier isoloir avec des colères à l'intérieur ou des utopies?
La première fois que j'ai voté, c'était à propos du général de Gaulle. C'était en 58. Pourquoi c'était, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai voté contre. Contre de Gaulle, alors que j'avais une grande admiration pour lui.
Mais malgré tout, vous votez contre le libérateur ou contre le général?
Oui, mais je ne vote pas contre le libérateur. Le temps a passé, si vous voulez. Il y a l'Algérie, il y a ceci, il y a cela. C'est le vote d'Augustine dont je ne suis pas fière du tout. Hein. Je m'empresse de le dire. J'ai dû voter communiste ou je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai vu un film quand j'étais petite qui m'a marqué et m'a rendu l'Union soviétique sympathique à jamais.
Alors bien plus tard, à la fin des années 60, hein, quand Régine Desforges devient la première éditrice française, publiant notamment des œuvres érotiques, là, la censure gaulliste, vous l'avez senti passer quand même?
Oui, oui, je l'ai senti passer, autant que tous les livres que j'ai publiés ont été interdits. Bon, De Gaulle est parti, il y a eu Georges Pompidou. J'ai été quand même condamnée et privée de mes droits civiques. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait parce qu'on sortait à peine de la guerre d'Algérie. Mai 68 était passé par là, il est interdit d'interdire. Moi, on m'interdisait mes livres et on me les saisissait sous prétexte de pornographie, de trucs. Moi, j'ai dit dans la presse de l'époque, mais la pornographie, elle n'est pas de mon côté, elle est du côté de François, de ça, qui fait ses unes avec des enfants brûlés au napalm. Moi, les livres érotiques sont faits pour donner envie aux gens de bander, de faire l'amour. Pas rien de plus.
C'est vrai que François Mitterrand disait que vous étiez l'auteur de livres à ne pas mettre entre toutes les mains.
Oui, oui, ou olé, olé, disait. Ça m'énervait quand il disait ça, ça m'énervait. C'était indigne de lui.
On connaît votre admiration, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, pour la figure du Che, par exemple. Aujourd'hui, vous trouvez que la politique, elle manque de romanesque, elle manque de grands personnages?
Certaines personnes sont des, sont romanesques. François Mitterrand était quelqu'un de romanesque. Le Che était forcément quelqu'un de romanesque et qu'il a payé de sa vie. On oublie toujours que Fidel Castro arrive à la suite d'un régime dans lequel tous les jours, le long d'une école, on ramasse des cadavres de gens qui ont été torturés par la police de Batista. On ne veut voir que le côté communiste, en fait, c'est ça qui dérange les gens, de Fidel Castro.
On est révolutionnaire à 20 ans et après on ne l'est plus ou on le reste?
Oui, il paraît qu'à 40 ans, on n'est plus révolutionnaire. Non, mais je crois qu'il y a des gens qui sont très profondément à gauche, je ne sais pas, Georges Aurès l'était. Et l'âge diminue les choses, mais pas chez tout le monde, hein, pas chez tout le monde.
Chez vous?
Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de cause contre lesquelles on peut monter au créneau. Si je me lance contre le Front National, comme Marine Le Pen parle, elle dit beaucoup de conneries, mais elle dit beaucoup de choses justes. C'est très troublant, vous comprenez? Puisqu'on n'en veut pas, pourquoi on ne leur coupe pas la parole? Mais nous sommes en démocratie.
Régine Deforge a voté.
Et ce service public a été énergiquement préparé par Marine Beccarelli, Alexia Rivière, Marie-Laurence avec Stéphanie Texier à la réalisation. La musique a été choisie par Thierry Dupin et à la technique Stéphane Poitvin et Pauline Laverdure officiaient. Juste après le flash, vous entendrez André Manoukian avec On va tous y passer. Demain, dans Service public, on se penchera sur l'intégration réussie. On parle souvent de ce qui échoue en matière d'intégration. Eh bien nous, on parlera de ce qui fonctionne. Bonne journée à tous, on se retrouve ici même demain à 10h. Amusez-vous bien d'ici là.